secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Claude Niort. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jacques Arnoux pour parler de ce que la science a pu dire ou ne pas dire, ce qu'elle peut dire ou ne peut pas dire sur Dieu, dans le processus de questionnement sans fin sur le réel que se doit d'être toute science digne de ce nom. Jacques Arnoux, vous êtes la personne particulièrement indiquée pour nous parler de ces sujets puisque vous êtes à la fois historien des sciences et théologien, et donc à la croisée de deux disciplines qui proposent des interprétations du réel qui parfois se rejoignent et parfois, et souvent, s'opposent. Vous avez d'ailleurs publié en 2007 un ouvrage tout à fait passionnant, « Dieu versus Darwin, les créationnistes vont-ils triompher de la science ?» aux éditions Albin Michel. Ouvrage dans lequel vous faites dialoguer de façon convaincante et intègre, je dirais ça, la notion d'intégrité est très importante, dont vous faites dialoguer foi et raison. Vous venez de publier aux éditions Albin Michel toujours, « Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu ». Dans cet ouvrage, vous retracez l'histoire scientifique, philosophique et religieuse de la question de Dieu en essayant de montrer comment on peut tenir ensemble, en tout cas comment les astrophysiciens en particulier ont tenté de faire tenir ensemble foi et raison, intuition spirituelle et rationalité. Mais avant de traiter de notre sujet à proprement parler, je voulais vous demander, Jacques Arnoux, ce qui vous a amené, vous, à titre personnel, à suivre en même temps ces deux voies de la science et de la théologie, ou en tout cas de l'histoire des sciences et de la théologie. Et au fond, qu'est-ce qui vous a amené à, ouvrage après ouvrage, si j'ose dire, à traiter de cette question de l'articulation entre science et foi, ou raison et intuition? On affinera peut-être notre vocabulaire au cours de cette émission. Jacques Arnoux.
La première racine, sans doute, est celle d'un grand-père pharmacien, et en plus grand ami de la nature, et avec lui, de manière sans doute plus... par influence que par enseignement direct, un certain goût pour simplement le compagnonnage avec la nature dans sa simplicité, les bois, les champs et les étangs. De là, ça m'a mené à une formation d'ingénieur agronome qui, aujourd'hui encore, me marque, surtout avec le petit vernis forestier que j'ai eu la chance d'avoir, parce que, déjà, Saint-Bernard en parlait, on apprend plus en étant sous les futaies qu'en ouvrant les livres. Il avait peut-être pas complètement raison, mais en tout cas, les futaies m'ont appris beaucoup de choses sur le temps et le temps qui passe et le temps qu'il faut prendre. Et puis ensuite, à cette racine, je dirais, un peu biologique, s'est ajoutée une vocation donc religieuse et de la théologie. Et donc, assez rapidement, la question de comment concilier, d'abord pour moi-même, deux manières de considérer le monde. J'étais pas le premier, évidemment, à aborder cette question-là. Et bien d'autres avant moi l'ont abordé, non pas intellectuellement d'abord, mais personnellement. Et le choix était très simple d'essayer d'avancer avec ces deux racines, ces deux intérêts, et aussi ces deux passions qui, d'une manière générale, m'ont toujours amené à rencontrer des hommes et des femmes engagés dans ces lieux, soit de recherche scientifique ou théologique, soit de dialogue ou de tentative de dialogue entre ces deux domaines. Donc, j'ai toujours voulu garder les pieds sur terre, tout en ayant un œil vers le ciel.
En espérant que vous ne tombiez pas dans un puits, justement, comme Thalès, puisque vous avez les pieds bien sur terre.
Tout à fait.
C'est une histoire, d'ailleurs, une anecdote que vous racontez. Peut-être pourriez-vous la re-raconter pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas, parce qu'elle est très emblématique, en fait, de votre propos.
Absolument. Thalès de Milet est un penseur grec qui a effectivement vécu au VIe siècle avant notre ère, et dont la figure a été reprise par Jean de La Fontaine. Mais Jean de La Fontaine s'en est moqué, comme ces astrologues qui, à force de regarder le ciel, ne regardent pas où ils mettent les pieds et peuvent, comme dans son histoire, dans sa fable, tomber dans un puits. En fait, la vérité, telle que nous la connaissons, c'est que Thalès a été sans doute l'un des premiers astronomes et non pas astrologue. Oui. C'est-à-dire que son propos était celui que nous qualifierions aujourd'hui de scientifique. C'est-à-dire de faire fi de tous les contes, les mythes qui, de son temps, comme aussi du nôtre, foisonnaient pour expliquer le monde dans lequel nous sommes, et d'essayer d'avoir vraiment une approche raisonnable du monde et de regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc, je pense que Thalès, en tout cas le vrai Thalès, regarder le ciel, mais continuer justement à avoir les pieds bien sur terre et qu'il n'est sans doute pas tombé dans un puits.
Oui, et d'ailleurs, puisque nous parlons de Thalès, vous commencez par parler de cette tradition grecque dans laquelle s'enracine bien sûr notre notion même de ce qu'est une science. En Occident, pas seulement d'ailleurs, puisque dans le monde musulman, c'est pareil. Au fond, ce sont les Grecs qui ont enseigné les sciences aux musulmans, à la démarche scientifique. Mais en tout cas, puisque nous parlons de Thalès, voilà, commençons par dire quelque chose de ces Grecs, parce que vous avez dit les Grecs sont ceux qui ont fondé cette idée d'une science qui serait dégagée de la mythologie, mais vous montrez en même temps que finalement, les supputations scientifiques, même chez ceux qui se voulaient les plus matérialistes et les plus scientifiques, amènent à des idées qui sont de l'ordre du mythe, en quelque sorte, Jacques Arnaud.
Absolument, mais on pourrait dire, au risque de la caricature, et dans ce domaine, je crains souvent de verser dans la caricature, mais tout de même que la différence que Marc, dans laquelle fait entrer Thalès, c'est que auparavant, on se contentait du mythe. Et quelque part, les faits, l'expérience du réel devait entrer coûte que coûte dans la manière dont ces mythes expliquaient le réel. Et avec Thalès et les suivants, il y a quand même une espèce d'a priori de l'expérience, de l'observation du réel tel qu'il nous apparaît, tel qu'on peut l'appréhender, qui devient vraiment non seulement un a priori, mais une priorité. Ça n'empêche qu'ensuite, cette expérience du réel pouvait amener à une réflexion. Et là, le mot de métaphysique s'impose presque, de passer de la métaphysique à ce que ce physique ou cette physique pouvait voiler et tâcher de dévoiler. Donc, on inverse en quelque sorte le processus. Mmh. Auparavant, la mythologie imposait, finissait par imposer l'appréhension du réel, alors que là, au moins on tente que l'expérience du réel puisse conduire au-delà du réel. Et donc, c'est un changement sans doute assez important.
Oui, et c'est un changement qui, finalement, a attendu à l'époque, je dirais, après le christianisme, c'est un changement qui a attendu, finalement, la révolution copernicienne et galiléenne pour, à nouveau, devenir opératoire dans le monde occidental. Puisque, si je vous ai bien lu, en fait, cette démarche qui met la science avant le mythe ou avant la croyance, on va dire, qui était celle des Grecs, au fond, elle a été la même pendant la période où l'Église a dominé le monde occidental ou le monde chrétien.
Alors, non seulement l'Église, mais comme vous le disiez précédemment, d'autres régimes de pensée, comme l'islam, a aussi été très influencé par cette approche grecque, et nous leur devons un mot quand même qui n'a pas encore été prononcé entre nous deux, c'est le mot de cosmos. Oui. Qui est important, je crois, pour la démarche qui était la mienne dans cet ouvrage, parce que précisément la vision qui était celle des Grecs et l'enjeu et même la prétention était quand même de se confronter et d'essayer d'expliquer, parce qu'ils restaient quand même modestes dans ces prétentions, l'ensemble du monde qu'ils qualifiaient de cosmos. Et ce mot-là, j'avoue l'avoir rencontré en permanence dans cette enquête, au fond, dont je rencontre dans cet ouvrage. Et en me disant, c'est bien là une espèce de nœud. C'est-à-dire, est-ce que l'on approche le monde comme un cosmos? Donc, en grec, je crois qu'il y a trois mots. Enfin, si on veut le résumer, trois mots, c'est cette belle totalité ordonnée. En fait, le monde sur lequel, cette terre sur laquelle nous sommes n'est qu'un tout petit élément très particulier. Et nous sommes entourés d'un événement plus grand, d'une totalité qui est, ajoutaient les Grecs, belle et ordonnée. Et pour eux, tout ça, ces trois mots, ces trois qualificatifs sont liés dans le seul mot de cosmos. Et c'est vrai que leur projet, c'était bien d'appréhender ce cosmos, donc d'avoir une idée de cette totalité. Et ça va rejoindre, comme vous disiez à l'instant, ça va être le propos de tous les penseurs, de tous les savants, de tous les chercheurs, quels qu'ils soient, jusqu'à cette révolution copernicienne dont vous parliez. Et c'est assez impressionnant. Il y a vraiment une prétention extraordinaire quand même. On va tout connaître, tout en sachant que on peut avoir plusieurs manières de l'appréhender. Certains, comme Platon, vont dire c'est d'abord les idées, c'est d'abord la théorie, et la théorie va primer sur le réel. D'autres vont accepter davantage l'épreuve de la réalité. Certains vont avoir une vision beaucoup plus, où le hasard, l'aléatoire aura sa place, comme les atomistes. D'autres, au contraire, vont le refuser. Enfin, il y a une très grande variété, mais toujours cette idée que la science permet d'appréhender l'ensemble. Et qui dit ensemble, dit aussi appréhender celui qui serait derrière cet ensemble. Donc il y a un propos que j'oserais dire théologique, qui est plus ou moins explicite ou plus ou moins cachée.
Alors revenons à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Thalès était un astronome. Et effectivement, alors autant dans votre livre Darwin, Dieu versus Darwin, finalement la question était de savoir qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'humanité. Dans ce nouveau livre, vous montrez bien, donc sous le voile du cosmos, vous montrez bien que la question de Dieu et la question du cosmos sont profondément liées, et c'est pourquoi vous avancez à travers l'histoire, en fait, de, disons pour faire simple, l'astrophysique.
Exactement. Le propos de ces livres vient d'un constat tout simple que j'ai fait maintenant il y a plusieurs années, voyant fleurir sur les couvertures de nos ouvrages des expressions qui me paraissaient étranges, comme la pensée de Dieu, la main de Dieu, le visage de Dieu, le doigt de Dieu, mais dans certains propos scientifiques. J'avoue une grande incompétence dans le domaine de l'astrophysique. Comme je vous l'ai expliqué, moi je viens plutôt du monde du vivant, et vous venez de le rappeler à travers le simple nom de Darwin, qui m'est plus proche qu'Einstein ou d'autres que j'ai pu aborder dans cet ouvrage. Mais c'est précisément ces expressions qui me paraissaient étranges, surtout dans notre milieu francophone, enfin des scientifiques qui utilisent de telles expressions, qu'est-ce que ça peut signifier ? Donc j'ai voulu aller voir un peu plus, c'était une certaine curiosité de théologien, je dois l'avouer. Et en me disant, est-ce que c'est simplement une manière de vendre son propos, de vendre son ouvrage, de vendre son discours, ou est-ce que derrière, il y aurait plus ? C'est-à-dire vraiment une démarche qui pourrait relever de la métaphysique. Et c'est donc, c'est pour ça que j'ai pris avec une petite crainte quand même j'ai mis le pied dans ce domaine de l'astrophysique, essayant d'y comprendre quelque chose, en tout cas suffisamment pour pouvoir dénicher derrière donc des propos de vulgarisation le plus souvent, parce qu'évidemment il est très rare de trouver ces mots-là dans un article scientifique, savoir lesquels avaient pu utiliser de telles expressions et pourquoi il l'avait utilisé, ça qui m'intéressait. D'abord, est-ce que ça existait vraiment ? Ben oui, j'en avais constaté, mais peut-être plus encore que je ne l'imaginais. Et aussi avec derrière des visions, donc, que je dirais métaphysiques, dans le sens vraiment très simple, presque géographique. Il y a l'approche scientifique de la physique, et est-ce que par moment, ces scientifiques vont derrière ? Et beaucoup y vont. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui pour moi est rassurant, c'est que derrière cela, il y a des positions et des réponses y a-t-il une métaphysique ? Des réponses extrêmement variées, qui recouvrent à la fois des domaines que nous connaissons aujourd'hui dans l'histoire des idées, ou même parfois qui en ouvrent de nouveaux domaines. Donc très variées, mais ce qui est vraiment important, je crois, aujourd'hui, surtout quand il est question de convictions métaphysiques au sens très large du terme, tous ces scientifiques qui osent parler de Dieu l'ont fait avec un grand respect de ceux qui en parlent différemment. Et je trouve que la leçon est belle quand elle vient du domaine des sciences, parce qu'a priori, c'est pas une leçon qu'ils donnent, c'est un enseignement qu'ils nous offrent.
Oui, et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a, si j'ose dire, un passif avec l'idée même ou le mot même de Dieu, puisqu'il est évidemment associé à la religion avant toute chose, bien que justement ces scientifiques ont la plupart du temps une religion quand même très très personnelle, si tant est qu'ils aient une religion. En tout cas, c'est vrai que ce nom de Dieu, et vous prenez bien soin d'expliquer cela, a un gros passif jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, qui est lié à la question religieuse. Et en effet, vous ouvrez votre livre sur l'affaire Giordano Bruno, bien sûr. Et vous montrez que Giordano Bruno n'avait rien contre Dieu. Simplement, comme il a été condamné et qu'il a été mis à mort par un tribunal religieux, même les plus athées des athées ont tendance à vouloir le donner contre Dieu. Alors qu'en réalité, l'affaire Giordano Bruno est une affaire entre un scientifique qui n'est pas du tout dénué de foi et une église, une institution, ce qui n'est évidemment pas nécessairement la voie de Dieu. Jacques Arnoux.
L'affaire Giordano Bruno, elle est absolument incontournable dans ce dossier. En même temps, comme toujours, très délicate à aborder parce que nous sommes au niveau de convictions à la fois personnelles, de ce que Giordano Bruno lui-même pouvait croire ou chercher. Et puis, comme vous venez de le rappeler, autour des structures, en particulier ecclésiales, qu'elles soient romaines, mais qu'elles soient aussi protestantes, parce que Bruno a quand même un record assez difficile à battre d'avoir été excommunié par les trois grandes églises de son temps. En plus, sans doute, une psychologie très particulière qui l'a poussé à s'entêter contre tous et allant jusqu'au bûcher. Et en étant aussi, enfin, ces derniers quasiment ses derniers mots à ses juges en disant, en fait, c'est vous qui avez peur. Et,
ça, c'est extraordinaire.
Oui, oui, ces derniers propos m'ont beaucoup touché parce qu'il il est à genoux devant l'Inquisition, il vient d'entendre sa condamnation qui ne l'étonne sans doute pas. Et quelque part, c'est peut-être ça qu'il voulait aussi. Laissons son secret. Mais, et là, il a ce dernier, pour la dernière fois, il va pouvoir faire opposition et se montrer tout toujours frondeur et dire, mais je n'ai pas peur, c'est vous qui avez peur. Et je l'ai interprété comme étant, en fait, vous avez peur des temps qui viennent. Parce que Bruno, d'une certaine manière, est encore de l'ancien temps. Même s'il est contemporain, contemporain de Copernic, contemporain de Galilée, qu'il soutient les idées de Copernic, qu'il va même au-delà, qu'il a entendu parler des premiers travaux de Galilée, pas encore en astronomie, mais quand même, et que Galilée, lui, connaît les idées de Bruno. Donc tous ces gens-là se connaissent, se lisent. Bruno appartient encore à l'ancien monde, et dans ce sens-là, je crois que vous avez raison, c'est, quelle que soit sa condamnation, c'est un chercheur de Dieu, simplement que derrière ou avec le mot Dieu, il ne met plus le Dieu de l'Église catholique et de l'Inquisition qui est en train de le condamner. Et ça, j'imagine, mais c'est évidemment, ça je peux le faire, que ces juges pourraient avoir peur de cela, parce qu'ils se rendent compte que celui qu'ils sont en train de condamner, c'est le dernier d'une époque et ne fait que inaugurer une nouvelle époque où là, je me suis permis d'utiliser ce mot-là, ils ne seront plus les clercs, eux, clercs de l'Église, ne seront plus les clercs, ceux auxquels on se réfère demain, les nouveaux clercs, eh bien, c'est ceux que Bruno est en train de désigner en disant, voilà, c'est Galilée, c'est Kepler et tous ceux qui vont suivre.
Peut-être quand même dire en quelques mots, même si c'est honteux de dire ça qu'en quelques mots, mais enfin, de dire, qu'est-ce qu'a apporté la révolution copernicienne? Après, on fera des grands sauts de géant pour venir à une époque plus proche de nous.
La révolution copernicienne, à travers l'un de ses enfants les plus proches, qui est Galilée, en fait, a apporté, donc, pour le sujet qui nous intéresse, une exigence essentielle, qui est ce mot répété à l'envi, qui est issu d'une lettre de Galilée à Christine de Lorraine, et qui est un mot que Galilée lui-même copie d'un cardinal romain. L'Esprit Saint ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment aller au ciel. Alors, il y a différentes formules. On comprend bien la leçon. Séparons les choses. Les choses de la religion, c'est celle qui effectivement nous amène au ciel, mais se demander comment les astres circulent, essayer de calculer, puisque Galilée tenait beaucoup mathématiques, calculer la trajectoire des astres, tout ça c'est de la science, et ça ne devrait avoir aucun lien avec la religion. Donc il ne pouvait pas exiger, mais il demandait à ce qu'il y ait une séparation des domaines, et une indépendance des domaines, et donc une liberté pour lui scientifique, pour ses confrères scientifiques, à mener leurs recherches, quelles que soient les conséquences apparentes pour la religion, mais de bien séparer les choses. Et c'est ce qui va avoir lieu, en fait, pour un certain nombre de raisons. D'abord, Galilée, lui, par chance, n'est pas passé sur le bûcher, mais il avait vu ce qui était arrivé.
Bien sûr, il s'est rétracté.
Une fois encore, ils sont contemporains, à peu de choses près, même si le procès de Galilée s'arrête 30 ans plus tard, mais c'est quand même pratiquement 20 ans de procès que Galilée va subir. Et donc, prudence du côté des scientifiques qui ne voudront pas donc passer sur le bûcher, donc vont faire attention à ce qu'ils disent. Mais surtout, leur méthode va les amener à quitter la vision cosmique dont je parlais tout à l'heure. Il ne s'agira plus d'étudier la totalité. Il ne s'agira plus d'avoir une approche esthétique. Il ne s'agira même plus de dire que tout est ordonné. Mais ils vont étudier la réalité par morceaux, c'est ce qu'on appelle donc la méthode réductionniste, c'est-à-dire ce qui est, pour utiliser une image, au bout de leur lorgnette. La première lorgnette astronomique, la première lunette astronomique de Galilée, évidemment, c'est une toute petite parcelle du ciel. Mais ça nous apprend déjà des choses. Et ils vont commencer par se concentrer sur le petit bout de leur lorgnette, en se disant, comme ça, on a déjà un morceau de la réalité. Et puis, on va accumuler les morceaux. Mais ce faisant, ils quittent la prétention cosmique. Et donc, ils sont moins dangereux pour les théologiens. Parce que derrière leur petite lorgnette, ils ne disent pas « je vais voir Dieu ». Parce que Dieu serait de l'autre côté de la totalité. Donc, ils ne sont plus des dangers.
Derrière le voile du cosmos, justement.
Voilà. Et pendant 3 siècles, quasiment, avec de différentes manières, et là, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, globalement, c'est ce à quoi ils vont se tenir. Et c'est ce à quoi aussi les théologiens vont se tenir, en disant, finalement, ce ne sont plus des ennemis, ce sont plus des concurrents, parce que, regardez, ils n'étudient plus que le bout de leur lorgnette. Et quand hein, Laplace, pour ne citer que lui, qui par ailleurs a des intérêts pour la question de la spiritualité. Il est franc-maçon, il va présenter ses travaux d'abord à ses frères francs-maçons avant de venir à l'Académie des sciences. En même temps, il répond le mot connu à Napoléon Bonaparte, « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse », quand Napoléon lui dit « Mais où est Dieu dans votre affaire, monsieur Laplace ?» C'est pas son problème. En tout cas, pas quand il étudie, quand il fait de la science, qu'il formule des mathématiques ou qu'il observe le ciel. Donc vraiment une séparation. Donc au fond, pas de combat, pas de conflit, parce qu'on a suivi l'invitation de Galilée de séparer les deux domaines.
Culture, les racines du ciel, les Lombards. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que très souvent vous donnez donc les arguments. Là, vous venez de dire par exemple l'Église les a laissés tranquilles parce que finalement ils ont fait semblant, en tout cas, ou réellement ils ont renoncé à l'idée d'un cosmos, du tout, etc. Et en même temps, ces arguments sont les mêmes que les scientistes positivistes. Et vous citez, un passage d'Auguste Comte que je ne connaissais pas, donc il dit que définitivement, il ne faut pas s'occuper du cosmos, parce que s'occuper de cosmos, il ne dit pas autre chose que l'Église, finalement. S'occuper de cosmos, c'est s'occuper d'affaires divines qui ne nous regardent pas et dans lesquelles nous ne croyons d'ailleurs pas.
Absolument, absolument. Parce que, et vous savez, quelquefois, justement, on dit toujours de manière très simple que les extrêmes se rejoignent, mais en tout cas, dans la sensibilité, Comte aussi est bien conscient que la question du cosmos, l'idée de cosmos, est une idée extrêmement dangereuse, au fond.
Dangereuse pour le matérialisme,
oui,
c'est ça qui est extraordinaire.
Y compris pour le matérialisme. Et c'est pas la seule question. D'ailleurs, après, quand on repasse à une nouvelle période, dès qu'on rentre dans le XXe siècle, à nouveau, la question du cosmos va se montrer très dangereuse. Et dans la manière dont nous la comprenons aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de réticences, nous en parlerons peut-être, de réticences à l'égard de des théories actuelles, alors évidemment la théorie du Big Bang dont on va parler, eh bien, des réticences matérialistes viennent de la même raison, parce que on parle de cosmos. Donc là, ça devient un point extrêmement sensible et qui pourrait éventuellement se montrer en contradiction avec, par ailleurs, un credo matérialiste.
Oui, alors justement, pour avoir le temps quand même de parler du Big Bang, avant de venir au Big Bang, on ne peut pas éviter, dans les grands sauts que nous faisons à travers l'histoire des sciences, et je m'en excuse par avance auprès de nos auditeurs qui retrouveront toutes les étapes bien détaillées dans votre livre, donc je suis rassurée sur ce point. Nous ne pouvons évidemment pas éviter de parler d'Einstein et à la fois de ce qu'il était, de son rapport à cette question, du cosmos, justement, du divin dans le cosmos, et surtout de ce que sa propre révolution la révolution qu'il a apportée dans l'histoire des sciences a fait avancer, en fait, cette question. Donc, c'est à la fois sur le plan personnel et sur le plan de l'histoire des sciences. Si on peut résumer cela, qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport d'Einstein?
D'abord, si je puis me permettre une petite confession personnelle, de fait, au moins ce travail m'aura permis une chose, c'est d'entrer un tout petit peu dans l'histoire d'Einstein, que finalement je connaissais très peu. Comme sans doute beaucoup d'entre nous, je restais sur ce visage sympathique et cette langue tirée sur tous les t-shirts du monde. Mais c'est un homme absolument passionnant. En tout cas, la vie d'Einstein est assez passionnante. Et en particulier sur le sujet qui nous intéresse. On en est tous restés sur, oui, bon, Dieu ne joue pas au dé, et beaucoup de ceux qui, avec lesquels j'ai discuté de ce sujet m'ont dit, oui, mais bon, voilà, c'est un mot qu'il a lancé parce qu'il en a lancé tellement de bons. Non, de fait, quand on commence à creuser ou qu'on essaie de décrire le personnage lui-même et son environnement, on se rend compte que cette expression correspond réellement à un souci permanent chez Albert Einstein d'une question métaphysique. Et que Dieu, alors, il aimait l'appeler le vieux, c'est déjà une manière de se démarquer d'un certain nombre de respect excessif qui ne lui convenait pas du tout, que la question de Dieu était vraiment pour lui une question majeure. Et que quand je voyais donc ces ouvrages qui s'intitulaient « La pensée de Dieu » ou d'autres choses, c'est entre autres en référence, explicite ou pas, à l'un des expressions les plus claires chez lui, où dans les années 20, il dit à une de ses étudiantes, au fond, c'est pas les équations mathématiques qui m'intéressent, c'est de connaître la pensée de Dieu. Et ça, là encore, c'est pas par hasard qu'il l'a dit, on se rend compte que il l'a dit, il l'a redit, et qu'elle était une question qu'il a vraiment habitée, auquel il a répondu à sa manière. Et ça, c'est fantastique.
Alors, c'est quoi sa manière?
Sa manière, c'est le Dieu de Spinoza. Pour moi, l'épisode le plus extraordinaire qui à la fois résume, au fond, malgré tout, l'humour de l'histoire ou de la vie, l'humour d'Einstein et la profondeur de sa pensée, c'est un épisode qui a lieu au printemps 1925. Einstein est déjà là, à ce moment-là, un personnage très connu. Il a les couvertures du Time, etc.
Oui, donc mythique,
voilà,
déjà.
Il est encore en Allemagne, donc il commence à souffrir du nazisme, mais il est déjà connu. Et à cette époque-là, donc, ses idées commencent à être répandues. Et un cardinal américain s'inquiète. Et dit clairement à ses fidèles, n'allez pas lire ces nouvelles théories qui nous viennent d'un certain Albert Einstein, elles sont dangereuses. Je ne sais pas pourquoi, mais lui considérait qu'elles étaient dangereuses.
Oui, c'est saisissant, cette citation
donc,
que vous faites.
Parce que, c'est en fait un retour du cosmos. Ça veut dire qu'Albert Einstein commence à parler du cosmos, donc redevient, ou lui-même devient plutôt un nouvel ennemi pour la théologie. Ça, le cardinal l'a senti. Et un rabbin américain s'inquiète à son tour. Oh là là, on est en train de mettre en cause quelqu'un dont on connaît l'appartenance juive sans qu'il soit un croyant affirmé et fervent. Donc, que va-t-il arriver? Alors, il a bien vu la montée du nazisme en Allemagne, tout ça, climat d'inquiétude. Et donc, ce rabbin envoie un télégramme à Albert Einstein en disant « Croyez-vous en Dieu ?»
J'aime bien le télégramme.
Voilà, réponse prépayée en tant de mots. Voilà, répondez-moi. Et Einstein va répondre. Et en 50 mots, je crois, même moins, il va donner son credo. Il va dire, je crois au Dieu de Spinoza. C'est-à-dire, je ne crois pas en un Dieu personnel, autrement dit, se liant au fond de sa foi, enfin, de la foi de ses pères,
oui,
ou de la foi, disons, biblique. Mais je crois en un Dieu, celui de Spinoza, un espèce de grand tout. Et cette réponse, de manière assez étonnante, convainc le rabbin, rassure le rabbin qui dit bon, Spinoza, il était juif. Bon, il semble oublier qu'il avait été excommunié par la communauté d'Amsterdam, mais globalement, il est de la maison. Donc, voyons, soyons rassurés, Einstein croit en Dieu. Et il gardera toujours, au fond, ce credo, on va dire spinozien ou spinoziste, je ne sais pas. En tout cas, ce lien avec Spinoza, lui-même d'ailleurs fera une préface à une œuvre de Spinoza. Et il le répétera, tout en gardant ses origines, enfin, son attachement au judaïsme.
En effet, donc d'ailleurs c'est ce que je vous avais apporté, un texte dans lequel il s'en explique, un texte que j'aime vraiment énormément et qui est dans un livre qui est un peu sujet à caution, hein, c'est Albert Einstein, Comment je vois le monde, donc les sources sont pas toujours bien citées comme il faut, mais enfin je pense que c'est un texte authentiquement d'Einstein, même si l'ordre dans lequel les textes sont présentés n'est pas toujours... ce qu'il faut. Mais enfin ça permet quand même d'avoir une idée, donc c'est publié chez Flammarion, Champ Science. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation, ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. Auréolé de crainte, cette réalité secrète du mystère constitue aussi la religion. Des hommes reconnaissent alors quelque chose d'impénétrable à leur intelligence, mais connaissent les manifestations de cet ordre suprême et de cette beauté inaltérable. Des hommes s'avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette perfection, et cette connaissance et cet aveu prennent le nom de religion. Ainsi, mais seulement ainsi, je suis profondément religieux, tout comme ces hommes. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. Je ne me lasse pas de contempler le mystère de l'éternité de la vie et j'ai l'intuition de la construction extraordinaire de l'être. Même si l'effort pour le comprendre reste disproportionné, je vois la raison se manifester dans la vie. Ce qui est très curieux dans ce texte, Jacques Arnoux, c'est qu'Einstein en fait parle presque plus en biologiste qu'en astrophysicien.
Oui, c'est assez étonnant. Et quand on a un tout petit peu travaillé les questions de théologie naturelle, on constate qu'en fait, il s'enracine bien dans cette tradition-là. Aujourd'hui, quand on parle de théologie naturelle, pour prendre la version la plus, qui est pour moi la plus sobre, l'étonnement dont parle Einstein dans ce texte, l'étonnement face à la beauté du monde qui conduit à la question de Dieu et peut-être à l'affirmation de l'existence de Dieu. Voilà, la théologie naturelle, ça, réduite au minimum, mais aussi à la beauté de la théologie naturelle. Souvent, nous pensons au cosmos, justement. Nous pensons à la beauté des étoiles, enfin. Et nous avons plus de mal à dire cela en considérant la vie. De fait, dans la tradition de la théologie naturelle, je pense évidemment à la plus célèbre ouvrage de William Paley au début du 19e, Paley s'étonnait davantage du vivant, tel que le fait Einstein, plutôt que des étoiles. Alors peut-être que justement nous sommes, Einstein n'est pas biologiste, je ne dis pas qu'il ne s'intéresse pas à la biologie, mais en ce début du 21e siècle, nous sommes aussi... peut-être pas les enfants, mais en tout cas influencés par toute l'approche de Darwin dont nous parlions. Mmh. Où Darwin, en 1859, va parler de l'origine des espèces liée à la sélection naturelle et au combat qui serait permanent dans le vivant. Et nous ne pouvons plus regarder le vivant, même si nous refusons Darwin, sans oublier cela. Mmh. Donc il faut le regard plus du physicien, du mathématicien, qui ne voit pas trop cela du vivant pour retrouver l'étonnement du la beauté
nouveau,
de la vie
et l'idée du cosmos voilà. À nouveau
et donc derrière on retrouve comme vous l'avez cité beauté vérité enfin le mot de cosmique ou de cosmos était permanent dans ce texte même s'il était
sous-entendu
appliqué à la vie
et alors vous expliquez que finalement pour faire simple évidemment vous donnez quand même des explications plus détaillé dans votre livre. Mais enfin, si je vous ai bien lu, l'idée d'Einstein, c'est que le temps est infini, mais que l'espace est fini, si j'ai bien compris.
Absolument.
Et que, évidemment, ça pose des problèmes qu'un astrophysicien se mette à parler de ce temps infini. Et puis après Einstein, vont venir d'autres théories que lui-même aura énormément de mal à accepter, en particulier cette théorie du Big Bang, dont vous allez nous expliquer en quoi elle consiste, et que cette théorie, au fond, va appliquer, pour faire court, ce qu'il dit du temps à l'espace. Mmh. Et c'est très intéressant parce que vous citez un moment où Einstein dit à Georges Lemaître que cette idée lui répugne en réalité. Mmh. Et très souvent, on retrouve sous la plume de ces savants qu'il y a des choses qui leur résistent, il y a des choses qui leur répugnent, comme si finalement on ne peut pas cesser d'être un homme avec ses croyances et ses répugnances, même quand on est un aussi immense scientifique que l'est Einstein. Alors, qu'est-ce que cette théorie du Big Bang nous dit en plus, en fait, de ce qu'Einstein a apporté? En quoi est-ce qu'elle remet encore plus sur le tapis, je dirais, cette question de Dieu et de la science?
Alors, si vous me permettez, ce que vous venez de dire à l'instant est très important, parce que tout scientifique, aussi nobilisé qu'il soit, c'était le cas d'Einstein et tant d'autres, reste un être humain avec ses convictions, sa culture, des a priori, des arrière-fonds culturels dont il n'est qu'en partie maître, mais ça le constitue dans son humanité. et que, y compris dans sa manière de faire de la science, y compris dans sa manière de d'élaborer des hypothèses et des théories, eh bien, il va être sous l'influence de cet arrière-fond culturel. Et la neutralité, une espèce de neutralité idéologique n'existe pas. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire donc la science est mauvaise. Non, la science, elle est cela.
Elle est humaine
et les scientifiques sont humains. Alors ensuite, bien à nous de décortiquer, et à eux-mêmes les premiers de décortiquer ce qui peut être sous influence. Mais c'est pas ça qui empêche la science d'avancer. Donc Einstein fait partie de cela. Et vous avez eu raison de noter ces mots de répugnance, de scandale, où on sent bien que derrière, même pas derrière, de manière explicite, le scientifique, que ce soit Einstein ou d'autres, dit clairement qu'il n'est pas d'accord, mais c'est excusez-moi l'expression, c'est avec ses tripes qu'il dit ça. C'est pas avec sa règle à calcul ou son ordinateur. Et ben ça, d'abord, ça les rend plus humains, ce qui toujours fait du bien. Et aussi, ça rend plus exact, si je puis dire, le fait qu'il y ait toujours une espèce de métaphysique derrière le discours physique. Alors, Einstein, oui, vous le disiez bien, pour lui, le temps est infini. Et puis arrive, dans les années 30, un jeune scientifique qui est... qui pose problème, Georges Lemaître, comme vous l'avez...
On le connaît beaucoup moins, donc présentez-le.
Georges Lemaître est un chercheur belge, le père de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du Big Bang. Lui avait appelé la théorie de l'atome primitif. L'atome primitif, pourquoi ? Parce que, à partir des observations qu'il n'avait pas lui-même faites, mais qu'il avait pu lire, à partir des théories qu'il avait tirées d'Einstein en particulier, eh bien, c'était, au fond, l'univers doit avoir été, à un moment donné de son histoire nous précédant, un atome, rien de plus. Et depuis, il est entré dans un mouvement d'expansion. Donc, d'un atome primitif à l'univers que nous connaissons aujourd'hui, avec des mesures, en fait, incommensurable pour nous humains. Et ce qu'on va appeler après la théorie du Big Bang, lui-même a parlé d'un espèce de bruit, de bang initial, mais il n'a pas parlé de Big Bang, c'est un autre que lui. La difficulté, et donc il faut le dire maintenant, c'est que Georges Lemaître était prêtre catholique, il est devenu même chanoine, on parlait le chanoine Lemaître. Et la deuxième difficulté qui vient immédiatement, c'est que un récit qui vous dirait... Il y a fort longtemps, l'univers était réduit à un petit point et dans un grand éclat de lumière, un grand bruit, eh bien, il est apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça a des relents d'histoire de la Genèse.
Que la lumière soit.
Voilà,
monsieur.
Que la lumière soit. Et donc, évidemment, assez très rapidement, on a dit, mais monsieur l'abbé, il était peut-être pas encore chanoine dans les années 30. Monsieur l'abbé, votre récit, là, enfin, ce que nous vous racontez, enfin, avec des formules mathématiques, c'est en fait un récit biblique que vous avez camouflé. Falsifié ou transformé en équation mathématique. Ce qui n'était pas le cas. On peut aller dans des détails en se demandant qu'est-ce qui a inspiré Georges Lemaître. Mais quand il publie ses premiers articles à la fin des années 1920, qu'il va les présenter à Einstein, qu'il les défend devant Einstein. Donc, il faut voir que c'est des gens qui sont... Il est l'équivalent d'Einstein. On le connaît mal, mais il pouvait discuter d'égal à égal avec Einstein. Et même lui montrer que sur certains points, il avait raison, qu'Einstein avait tort. Enfin bon... Il va se battre toute sa vie, à partir donc des années, début des années 30 jusqu'en 1966, l'année de sa mort, ce brave chanoine Lemaître, en disant « mais je suis capable de faire la distinction entre ce qui est ma foi de catholique, de chrétien et d'engagé, et puis ce que, à la fois des observations de mes collègues, des équations que je suis capable de développer, me proposent comme théorie de cette réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est vrai que c'est bien du cosmos qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une petite partie, pour revenir à ce que vous dites. C'est pas le petit bout de la lorgnette, c'est l'ensemble de la réalité que nous essayons d'expliquer. Et aujourd'hui, quand nous parlons de théorie du Big Bang, bien, quelque part, nous sommes, les héritiers de Georges Lemaître et de sa théorie.
Oui, et le paradoxe, c'est que maintenant, moi en tout cas, je l'ignorais totalement, que c'est justement un catholique qui a fait cela et que lui-même a été d'une prudence extrême parce qu'il savait très bien que c'était une sorte de chausse-trappe dans lequel il risquait de tomber. Et maintenant, c'est accepté par les plus matérialistes et les plus athées des scientifiques, cette théorie est acceptée. Alors tout à l'heure, peut-être de répondre d'abord à cela, après je vous poserai une question quand même sur la question de la théorie, Jacques Arnoux.
Vous venez de dire monde matérialiste. Pour reprendre ce que nous disions précédemment, parmi les opposants les plus virulents des théories Delemaître, mais avant lui, Friedman avait déjà posé des équations qui allaient dans ce sens-là. Puis ensuite, cette théorie va être travaillée, va être accaparée, j'allais dire, par la communauté scientifique, et de plus en plus de scientifiques vont rejoindre les rangs de cette théorie. Mais jusqu'en années 60, quasiment, on va ferrailler dur dans cette communauté scientifique, parce que d'autres vont dire non, il est hors de question que l'univers soit en expansion. L'univers est, comme dans la vision développée par Einstein, figé, c'est-à-dire qu'il est limité dans l'espace, et le temps est infini. Parce que précisément, et parmi eux, je pense à Fred Hoyle, matérialiste convaincu, qui ferraillait contre les religions avec une grande virulence, pour un matérialiste, et Claude Trémontant l'a très bien expliqué, l'idée d'un moment initial à partir duquel la réalité se développerait est une idée qui n'est pas tout à fait facile à admettre pour un matérialiste. Donc là aussi, on a bien, à travers de la science qui se fait, des théories scientifiques qui s'affrontent avec des arguments scientifiques. Ne l'oublions pas, il y a derrière des appareils culturels et idéologiques qui peuvent aussi s'affronter. Donc soyons-en conscients, et aussi que les scientifiques en soient conscients.
Voilà, et surtout, alors je reviens à la notion de théorie, surtout ce que montre très très bien votre livre, c'est qu'en science aussi il y a des dogmes, en science aussi il y a des croyances, il y a même des axiomes dans lesquels il faut croire dur comme fer, sinon ça ne marche pas. Et souvent, c'est ces grands scientifiques, finalement, qui ont réussi à vraiment ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas lever des voiles sur le cosmos, ce sont des gens qui ont d'abord émis des hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a une différence radicale entre l'hypothèse et la théorie. Et la théorie elle-même, même quand elle est vérifiée par l'expérience, quelquefois, elle peut être mise en question par une autre hypothèse, d'autres expériences, d'autres théories. Et ça, vous le montrez de manière très fine. Et ça fait que la science ressemble quand même étrangement à la religion. Jacques Arnoux.
Alors, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, enfin un certain nombre de travaux qui essayent justement de rapprocher non pas les domaines avec la matière qui les constitue, les domaines scientifiques et théologiques, mais la méthode qui est derrière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapprochements. Ceux qui ont la chance ou la passion de fréquenter l'un et l'autre l'ont vite remarqué, et il est bon de le rappeler, parce que surtout, non pas pour revendiquer des choses, mais pour reconnaître ce que nous disons depuis le début, la modestie, le fait que l'on est curieux, qu'on n'est jamais rassasié, que l'on accepte d'être mis en question en permanence. Et ça, je me semble que ça doit être un credo commun à ces deux domaines, tout sans les confondre absolument. Et il est vrai que ça soit quels que soient les domaines scientifiques, j'allais dire, en exagérant un tout petit peu, la grandeur d'un scientifique, c'est lorsqu'il reconnaît, plutôt à la fin de sa vie peut-être, que la théorie qu'il a défendue mérite peut-être d'être modifiée, voire peut-être même abandonnée. La théorie ou les hypothèses, c'est pas nécessairement à un niveau aussi élevé. Et j'ai toujours été frappé et toujours été très touché lorsque, lisant justement la biographie d'un scientifique, ou même peut-être les mémoires, à un moment donné, il reconnaît « là, je me suis trompé ». Ça ne veut pas dire que je me suis trompé en tout, mais reconnaître son erreur, reconnaître aussi que même la théorie sur laquelle nous nous fondons aujourd'hui, peut-être que dans quelques décennies, elle va être entièrement remise en cause. Mais elle sera remise en cause par une théorie qui se sera fondée sur la théorie qui est actuellement défendue. Parce que même quand on refuse une théorie, je dirais, le fait de s'en écarter signifie que la précédente existait bien, sinon on ne pourrait pas s'en écarter. Et ça aussi, c'est toute la grandeur de la science.
Oui, et alors d'ailleurs, vous citez, et je crois que ce serait un joli mot de la fin, vous citez ce scientifique au sujet des sommets de l'ignorance. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Oh, c'est un astronome américain qui a à la fois beaucoup fait dans la recherche astronomie dont nous venons de parler, avec dans ce contexte du Big Bang, et en même temps dans la vulgarisation. Et dans un de ses ouvrages, justement, de vulgarisation, de manière assez inattendue pour moi en tout cas, et j'étais le débusqué, il dit au fond, voilà, la recherche scientifique, c'est une montagne qu'il faut gravir, étape après étape et cordée après cordée. On peut aller très loin dans cette très belle image. Et puis, dit-il, aujourd'hui, c'est assez étrange parce que nous avons avancé durant ces derniers siècles en grande cordée scientifique et triomphante. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à une espèce de palier. Et nous sommes arrivés avec fierté. Et nous avons constaté qu'il y avait déjà une bande d'éthologiens qui était là depuis des siècles. Et évidemment, par là, il résume très bien ce que nous avons dit durant cette émission. C'est-à-dire que aujourd'hui, la science a retrouvé la voie du cosmos, reparle de cosmos. Et dès lors, on n'est pas en train de d'aller en arrière, mais bien en avant, malgré tout, les scientifiques retrouvent comme collègues, comme éventuellement, j'espère, comme partenaires, les théologiens qui, eux, n'avaient jamais quitté la question du cosmos. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils vont continuer à monter, parce que on n'est pas au sommet, jamais au sommet. Donc il y aura de nouvelles cordées à instaurer, aussi bien du côté théologique que du côté scientifique, parce que, n'oublions pas que si des scientifiques s'interrogent en métaphysique, il y a également des théologiens qui doivent s'interroger, se réinterroger et réinterroger leur propre domaine à cause des découvertes de la science.
Oui, et d'ailleurs, si Dieu existe, il est par essence infini et multiforme, et quoi de plus merveilleux que d'en découvrir chaque jour de nouveaux visages. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans évoquer, juste en 30 secondes, la mémoire de Bernard d'Espagna, que vous ne citez pas d'ailleurs, j'en étais un peu étonnée. Bernard d'Espagna, que j'avais contacté pour qu'il soit un nouveau grand témoin de cette année aux Racines du Ciel. Hélas, Bernard d'Espagna est décédé, m'a-t-on dit, au mois d'août dernier. Et quand je l'avais contacté juste avant, il avait accepté donc le principe de cet entretien en me disant « à condition que vous ne me posiez pas la question de savoir si Dieu existe ». Donc, je ne lui ai pas posé la question, il ne m'a pas donné de réponse et il est parti sans que je puisse faire cet entretien. Mais je voulais quand même lui rendre cet hommage. Donc, l'auteur de ce merveilleux livre, À la recherche du réel, il a été un très grand astrophysicien, justement dans la lignée de ceux que vous citez dans votre livre, Jacques Arnoux. Merci beaucoup d'être venu aux Racines du Ciel nous évoquer ces questions compliquées, mais comme dans votre livre, vous êtes très pédagogue, donc on a l'impression qu'on devient intelligent en vous écoutant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu, paru aux éditions Albin Michel. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lily Anvar. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour la suite des chemins de sagesse.
Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que en Occident et particulièrement en France, nous avons un peu perdu la joie de vivre? Et aujourd'hui, il y a des pays, notamment la France, où c'est pas la joie qui domine. Hein. On pourrait dire que c'est plutôt le souci, le stress, l'angoisse, la plainte, même si c'est pas tout le monde n'est pas comme ça, il faut pas généraliser, mais on sent qu'il y a une tendance un peu lourde. Je voyage beaucoup. Chaque fois que je rentre en France, j'ai ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui plombe. Il y a une sorte de dépression collective. Et puis, il est plutôt de bon ton de râler, de se plaindre. Et puis, des gens qui ont même des conditions de vie décentes, qui sont pas à la rue, ont un peu perdu la joie. Et je me suis interrogé qu'est-ce qui se passe en France et dans, évidemment, d'autres pays, mais particulièrement en France. Et j'ai le sentiment que, il y a deux choses. D'une part, nous avons un sentiment de déclin. La France était un grand pays, une grande nation qui avait un rôle très important dans le monde entier et qui l'a de plus en plus perdu. On voit très bien qu'on est une petite nation et sur le plan politique, on a une influence de plus en plus faible. Et puis, sur le plan économique, on est également, après les 30 glorieuses exceptionnelles, on a connu une croissance permanente, on est dans une période de régression. Et on est dans une période de régression dans laquelle, effectivement, on a moins de revenus. Les Français ont le sentiment que leurs enfants vont connaître des difficultés qu'ils n'ont pas connues, c'est-à-dire qu'on va y avoir plutôt effectivement une baisse des revenus pour leurs enfants, des avantages sociaux qu'ils ont eus dont leurs enfants ou leurs petits-enfants ne bénéficieront pas. On le voit avec toute la question évidemment des retraites. Et donc on se dit, on est dans une régression. Et cela me fait penser à quelque chose que dit Spinoza, qui est un philosophe dont je parlerai beaucoup plus longuement dans d'autres chroniques, mais je voudrais déjà l'évoquer à ce propos. Spinoza définit ainsi la joie. Il dit « la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. » Donc la joie est toujours liée à une croissance. Chaque fois qu'on progresse, chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on s'améliore, chaque fois qu'on se perfectionne, chaque fois qu'il y a une victoire, un progrès, on est dans la joie. Et à l'inverse, chaque fois qu'on diminue, chaque fois qu'on régresse, chaque fois qu'il y a un obstacle à notre croissance, on est dans la tristesse. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, collectivement, on a ce sentiment de régression, même si c'est pas totalement juste non plus, puisqu'il y a des domaines dans lesquels on progresse, dans lesquels la France continue d'avoir des atouts très importants, y compris sur le plan économique. Mais collectivement, on a ce sentiment de régression. Et donc, du coup, ça donne une tristesse qui est liée au fait qu'on n'est plus effectivement avec un avenir qui nous semble meilleur. L'avenir nous semble bouché et c'est plutôt le passé. On a la nostalgie du passé, de ce qu'a été notre grandeur politique, de ce qu'ont été ces années de croissance économique assez exceptionnelles. Et donc, c'est, je crois, une des premières raisons qui explique la morosité que nous vivons en France actuellement. Et puis, je crois qu'il y a une autre raison, c'est le fait que le caractère des Français est assez porté vers la comparaison. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'en France, les gens se comparent tout le temps. Y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jalousie. Dès que quelqu'un a du succès, immédiatement, c'est tout à fait suspect. Il faut cacher le succès parce que c'est mal vu. C'est exactement l'inverse dans la plupart des autres pays du monde, notamment les pays anglo-saxons. Je vais souvent au Canada, aux États-Unis. Les gens se réjouissent quand quelqu'un a du succès, quand il y a une réussite, quand quelqu'un gagne de l'argent. Tout ça est très bien vu. En France, c'est très mal vu. Et donc, on est devant, effectivement, une sorte d'envie. On se compare aux autres. Et du coup, on est de plus en plus malheureux. Parce que si on se compare, on est sûr de ne pas s'épanouir. C'est déjà Sénèque qui disait, si vous voulez être malheureux, comparez-vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus heureux que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui réussira mieux que vous. Et donc les Français se comparent. Les Français se comparent à ceux qui réussissent à l'intérieur de la France et ils en sont jaloux. Et puis ils se comparent à d'autres pays, d'autres nations qui se développent, qui sont en plein essor. Et donc on a un sentiment individuel et collectif qu'effectivement on n'a pas les avantages ou les progrès ou les fruits d'une croissance qu'il peut y avoir ailleurs. Et là je crois qu'il y a vraiment un travail individuel à faire. Pour retrouver la joie, il faut arrêter de se comparer. Il faut vaincre ce que Spinoza appelle les passions tristes, que sont l'envie et la jalousie. Et c'est un travail individuel. Chacun d'entre nous, moi, c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps, parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais facilement dans la compétition, dans la rivalité. Je ne le suis plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me réjouis qu'un de mes confrères ait beaucoup de succès, vende beaucoup de livres. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va diminuer mon propre bonheur. Et au contraire, j'ai toujours de la joie lorsque je vois quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un qui s'accomplit. C'est ce que les bouddhistes appellent la joie de la bienveillance. Le fait d'avoir de la bienveillance permet de faire grandir la joie. Alors que le fait de souhaiter que les autres échouent, parce que nous nous sentons en concurrence avec eux, apporte de la tristesse. Tous ceux qui souhaitent du mal aux autres finalement développent de la tristesse d'une manière ou d'une autre. Et tous ceux qui souhaitent du bien aux autres, qui souhaitent que chaque être humain, que chaque personne puisse s'épanouir, puisse s'accomplir, puisse se réaliser, puisse avoir du succès, qui s'en réjouit, finalement, ça donne de la joie. Donc je crois que la réorientation de nos pensées, de notre état d'esprit vers la bienveillance est une manière fondamentale de pouvoir retrouver cette joie de vivre que nous avons perdue, de pouvoir nous réjouir non seulement des petites choses, encore une fois, comme je l'expliquais, des petits plaisirs du quotidien, de cultiver la joie à travers l'attention, à travers l'émerveillement, à travers plein de petites expériences du quotidien, mais aussi à travers la bienveillance, à travers le fait de ne pas se comparer aux autres, si ce n'est pour se réjouir de ce qui arrive aux autres. Alors ça paraît peut-être très difficile à certains, mais c'est un travail qu'on peut tous faire et qui permet certainement de transformer son regard intérieur, de transformer les pensées et la vision que nous avons du monde. Et c'est à travers cette transformation de nos pensées que nous pouvons retrouver un équilibre, retrouver une paix, retrouver une joie que nous avons peut-être perdue à cause de ça. Et puis après, nous reviendrons dans d'autres émissions sur une dimension beaucoup plus profonde qui consiste à travailler sur son ego. Puisque bien souvent, et là ça ne concerne pas que les Français, c'est tout à fait universel, ce qui coupe la joie de vivre, c'est l'ego, le fait d'être effectivement trop centré sur soi, le fait d'être trop sensible au regard des autres. Et du coup, lorsqu'on ne vit plus que dans l'extériorité, le désir d'apparaître, d'apparence, dans le regard des autres, lorsqu'on ne vit plus que pour son ego, on est sûr de ne jamais être dans la joie. On sera dans des petits plaisirs, mais jamais dans des grandes joies. Et nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard.
Je rappelle que vous avez un an pour podcaster cette émission afin de l'écouter, de la réécouter autant de fois que vous voudrez, mais que vous pouvez tout aussi bien la réécouter sur le site de France Culture pendant 1000 jours. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.